Bonsoir. En RDC, un enfant d'au moins de 5 ans meurt toutes les minutes, ce qui fait un total de 540 000 décès par an, selon les enquêtes nationales de 2010. Plusieurs provinces de la RDC connaissent un taux de mortalité élevé. Parmi les causes, il y a notamment les affections liées à la naissance, les maladies diarrhéiques ainsi que la malnutrition. Quelle analyse faire de cette situation? Pour en parler, nous recevons Dr Jean-Fidèle Ilunga, coordonnateur national des stratégies de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Dr Ilunga, bonsoir. Dr Ilunga, vous êtes en ligne?
Je suis en ligne avec vous.
Merci beaucoup, soyez le bienvenu. Docteur Hippolyte Kalambay, directeur chargé des études de planification au ministère de la Santé publique. Docteur Kalambay, bonsoir.
Bonsoir.
Docteur Kabamba Mbwebwe, médecin à l'hôpital général de Kinshasa. Il est président du parti politique Front Patriotique et modérateur de la plateforme de l'opposition dénommée G14. Docteur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
La République démocratique du Congo est en régression pour ce qui est de la mortalité infantile selon les résultats d'une enquête menée par le ministère de la Santé en 2010. Pour 1000 décès par exemple, la RDC est à 158 au lieu d'avoir moins de 100 décès. Et parmi les causes, il y a notamment les affections liées à la naissance. Kevin Kouté revient sur les grandes lignes de ces enquêtes nationales de 2010.
Ce taux élevé de mortalité infantile en RDC est notamment lié, selon cette enquête, à la malnutrition et aux maladies diarrhéiques. Cette enquête indique aussi que la population congolaise ne s'est pas appropriée suffisamment des gestes simples qui peuvent aider les enfants à survivre pendant longtemps. Ces gestes sont par exemple la vaccination, le lavage des mains, l'allaitement maternel exclusif d'un enfant qui vient de naître jusqu'à l'âge de 6 mois. Les provinces les plus touchées par un taux élevé de mortalité infantile sont le Maniema, qui vient en première position, suivi du Katanga, de l'Équateur et enfin Kinshasa, selon les enquêtes nationales de 2010. Ces enquêtes nationales révèlent aussi que les enfants les plus touchés sont ceux issus des familles pauvres, mais elle souligne que l'inaccessibilité géographique et l'analphabétisme des parents constituent aussi une cause du taux élevé de la mortalité infantile en RDC.
À Kapamba, village situé dans le territoire de Bukama, à 280 km au nord-est de la cité de Kamina au Katanga, on signale la recrudescence des cas de paludisme. Selon le médecin-chef de zone de Kipamba, la moyenne des enfants de 0 à 5 ans est de 900 cas par semaine. Il parle également de 9 enfants décédés la semaine dernière. La société civile du Katanga, section de Kipamba, contactée, déplore le manque des produits pharmaceutiques dans plusieurs structures sanitaires de la place. Docteur Jean-Fidèle Ilunga, vous êtes coordonnateur national des stratégies de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Pour commencer, pourquoi une enquête de 2010 fait-elle encore l'actualité en 2013?
Ok, merci beaucoup pour d'abord nous intéresser à ce sujet qui est très très important. Pour entrer dans le sujet, il faut savoir que nous avons 8 objectifs du développement du millénaire. Et que nous avons commencé ces objectifs en 1990 pour atteindre la cible en 2015. Et parmi les 8, il y a la réduction de 2/3 de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Donc, si nous partons déjà sur cette base, nous pouvons nous dire que la République démocratique du Congo, qui vient vers les années 2000 avec un taux de mortalité de 213 pour 1000, et que actuellement avec l'enquête nationale de 2010, nous avons un taux de 158 décès pour 1000 naissances vivantes concernant les enfants de moins de 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a une régression quand même. L'important, c'est que nous devrions atteindre des chiffres inférieurs à 100 décès pour 1000 naissances vivantes. Et pour 2015, normalement, notre cible est d'arriver autour de 66 décès pour 1000 naissances vivantes. Donc voilà le problème. Alors, en ce qui concerne les enquêtes, c'est périodique. Donc il y a des enquêtes nationales, vous savez que ça demande une logistique plus importante. Donc il y a des périodes, on les fait pas chaque année. C'est par période que l'on fait ces enquêtes. Et la dernière enquête, c'est 2010. Il y a une enquête qui est en cours, qui pourra sortir fin 2013. Ça sera toujours la même enquête qui sera publié. Donc c'est périodique, c'est pas chaque année.
Alors,
voilà un peu ce que je peux déjà dire. Voilà.
Alors, docteur Jean-Fidèle Ilunga, je le disais dans le sommaire, un enfant de moins de 5 ans meurt à chaque toutes les minutes, et ce qui fait un total de 540 000 décès par an, selon les enquêtes nationales. Et vous dites qu'il y a régression. Qu'est-ce que ça signifie concrètement?
Oui, c'est par rapport à l'objectif du développement du millénaire numéro 4, hein. Je venais de dire qu'il y a 8 objectifs du développement du millénaire. Et nous venons de 213 pour 1000 naissances vivantes. Et aujourd'hui, donc en 2010, nous sommes à 156. Ça veut dire qu'il y a une régression. L'important, c'est que en 2015, normalement, il faut que nous puissions atteindre 66 décès pour 1000 naissances vivantes. Et c'est cela le défi. Donc je dis que nous sommes en régression. Parce que quand on prend un chiffre ponctuel d'une année, on ne sait pas d'où l'on vient, où est-ce qu'on est en train d'aller, et ça risque toujours de ne pas être bien interprété.
Alors, cette émission, nous la voulons vraiment pédagogique ainsi que de sensibilisation. Docteur, revenons sur les causes. Quelles sont les causes de ce taux élevé de mortalité?
Oui, c'est, comme vous l'aviez déjà dit, les affections ou les maladies du premier mois après la naissance, donc on appelle les maladies néonatales. Et parmi ces maladies-là, il y a principalement les enfants qui naissent avant terme, donc la prématurité. Il y a l'asphyxie néonatale, c'est-à-dire les enfants qui naissent et qui ne respirent pas bien à la naissance ou qui ne respirent pas du tout. Et puis, il y a les infections. Donc, c'est un peu ça. Les grandes causes qui tuent les bébés. Et quand on dépasse la période du premier mois, c'est principalement le paludisme, donc la malaria. Il y a les infections des poumons, principalement la pneumonie. Et il y a les maladies diarrhéiques, la rougeole, la malnutrition comme l'élément de base. Et puis, il y a l'infection à VIH. Hein. Donc, c'est un peu essentiellement c'est quelques maladies qui tue le plus les enfants de moins de 5 ans en République démocratique du Congo.
Il semblerait, docteur, sans être spécialiste, qu'il y aurait également des maladies liées à la vaccination.
En fait, les maladies que l'on peut éviter par la vaccination, pas les maladies liées à la vaccination.
Voilà, effectivement.
Les maladies que l'on peut éviter par la vaccination, effectivement, c'est comme le tétanos, c'est comme la tuberculose, c'est comme la poliomyélite, les infections des poumons, les méningites. Donc il y a toute une série que quand on vaccine un enfant, cet enfant a moins de risques de faire ces maladies. Toutes ces maladies-là, c'est un peu autour de ce que nous venons également de citer, surtout les maladies liées aux infections de voies respiratoires. Ça, nous avons des vaccins pour ça, et quand les enfants ne sont pas vaccinés, ça fait qu'on a des taux plus élevés.
Alors, docteur, en ce qui concerne les provinces, si on devrait les classer malheureusement par nombre d'enfants enterrés, pour ne prendre que cet indice-là, quel serait le classement?
Ok, par rapport au nombre d'enfants enterrés, c'est le Katanga. Le Katanga, et puis après, c'est l'Équateur, et vient le Bandundu. La province de Kinshasa, c'est la moins... celle qui vient vraiment en dernier, hein. Donc on est un peu dans les bons parce que le taux de Kinshasa, c'est un taux qui est inférieur à 100 000 décès, à 100 pour 1000 décès, 1000 naissances vivantes. Donc il faut commencer par l'Équateur, les Katanga, et puis passer par l'Équateur.
Merci docteur Jean-Fidèle Ilunga, je vous retrouve tout à l'heure. Docteur Hippolyte Kalambay, vous êtes directeur chargé des études de planification au ministère de la Santé publique. Ce sont certainement des choses que vous connaissez. Docteur, comment vous analysez cette situation?
Merci de nous avoir invités.
Je vous en prie.
Si vous permettez, je vais revenir un peu sur ce que docteur Ilunga dit.
Allez-y.
Pour essayer de compléter dans le terme de la question que vous avez posée. Vous savez, pour connaître le nombre d'enfants qui meurent, tel que vous l'avez donné, on a besoin de deux données statistiques. La première, c'est le taux de mortalité infanto-juvénile. Ça veut dire le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui naissent vivants et qui meurent avant leur 5e anniversaire sur un total de 1000. Et donc, Dr Lunga vous a dit qu'il y a 10 ans, nous étions à 213 enfants qui mouraient pour 1000, et que pour le moment, nous sommes à 158 enfants qui meurent pour 1000 naissances vivantes. Et donc, entre les deux, il y a une différence. Alors maintenant, pour connaître le nombre d'enfants qui meurent, j'ai dit il faut deux données. La deuxième donnée, c'est la population totale de la RDC. Parce que ces enfants qui meurent, ils sont dans la population totale. Et si nous prenons les données de l'Institut National de la Statistique.
Allez-y, je vous en prie, docteur.
Les données de l'Institut National de la Statistique qui nous disent que la population de la RDC pour le moment, en 2013, et de 70 millions environ d'habitants. Ceci veut dire que si nous avions aujourd'hui en 2013 le taux de mortalité infanto-juvénile que nous avions il y a 10 ans, celui de 213 enfants qui mouraient sur 1000, il y aurait aujourd'hui 590 000 enfants qui mouraient. 590 000. Mais parce que nous avons un taux de 158 qui meurent sur 1000, ça veut dire qu'il y a une réduction. Et la réduction nous a ramené à 442 000 et non 540 tel que vous l'avez dit.
Alors, docteur, cette réduction, vous l'attribuez à quoi?
Alors, la réduction qui est d'abord d'à peu près, si je fais rapidement les calculs, de 150 000 vies économisées, ça veut dire des enfants qui auraient dû mourir et qui ne sont pas morts, qui ont été sauvés. À quoi nous l'attribuons? On l'attribue à plusieurs facteurs. Quelques-uns des facteurs, ce sont les efforts qui sont effectués dans le cadre du secteur de la santé. J'ai dit quelques-uns des efforts parce que, peut-être qu'on aura le temps de le dire par la suite, la mortalité des enfants de moins de 5 ans, c'est en fait... Elle va au-delà du secteur de la santé. C'est plutôt un problème de développement. C'est pour cela que d'ailleurs, Dr Lunga vous l'a dit, l'objectif 4, qui consiste à réduire cette mortalité, c'est l'un des objectifs du millénaire pour le développement. Ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui ne sont pas facteurs santé qui interviennent là-dedans. Et donc, pour parler santé, il y a eu un certain nombre d'efforts qui ont été menés, notamment tous ces efforts de vaccination qui sont faits dans le pays. Les efforts en termes de prévention de la malaria, il y a eu ces dernières années 18 millions de moustiquaires imprégnés qui ont été distribués et qui font que la prévalence de la malaria diminue. Elle est passée de 41% à 27% chez cette même catégorie d'enfants. Ça fait une réduction d'environ 21 millions d'épisodes de fièvre qu'on a réduite. Et donc ça peut expliquer que on puisse connaître une baisse de la mortalité des enfants de moins de 5 ans.
Alors, docteur Hippolyte Kalambay, parmi les causes de mortalité infantile, est-ce qu'on pourrait citer l'accessibilité aux soins de santé? La faible accessibilité aux soins de santé, par exemple.
Oui, je crois qu'il y a, c'est l'un des facteurs. Il y a des problèmes liés à l'accessibilité, parce qu'on est quand même un pays où le taux de pauvreté est de 70%. Et donc, il y a l'accessibilité financière qui pose quelques problèmes, même si les efforts sont faits pour que on puisse aller vers un certain nombre de soins gratuits chez les enfants. Il y a un certain nombre de molécules qui sont déjà gratuites. Par exemple, la vaccination ne se paye pas. On fait un effort pour que le traitement de la malaria soit gratuit chez l'enfant. Il y a la moustiquaire imprégnée qui n'est pas payée. Et donc, on essaie de faire des efforts là-dessus. Mais il reste quand même des problèmes liés à l'accessibilité géographique. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'enfants qui restent assez loin des structures de santé, et donc il arrive qu'un enfant puisse mourir sur le chemin avant d'arriver au service de santé. Ça existe.
Alors, tout à l'heure, docteur Jean-Fidèle Ilunga parlait des maladies qu'un enfant peut attraper s'il n'est pas vacciné. Est-ce que à ce jour, par exemple, dans le cadre des différentes vaccinations qui se font, il y a encore des résistances dans certains coins du pays? en RDC particulièrement?
Les résistances, il y en a dans tous les pays, y compris chez nous. Ben, elles sont généralement liées ici chez nous à un certain nombre de sectes hein, qui existent ici et là, qui font qu'ils interprètent mal la vaccination. Mais nous essayons par des campagnes de sensibilisation de pouvoir les amener à accepter de faire vacciner leurs enfants parce que c'est pour leur intérêt.
Docteur Kabamba Mbwebwe, vous êtes un médecin à l'hôpital général de Kinshasa. Vous êtes président du parti politique Front Patriotique et modérateur de la plateforme de l'opposition dénommée G14. À votre niveau également, comment vous analysez cette situation? Vous avez suivi vos confrères docteur Hippolyte Kalamba et Jean-Fidèle Idonga.
Bien, je vous remercie d'abord pour cette invitation. La première des choses, je m'étonne un peu de voir l'optimisme de mes confrères. Parti de 213 pour 1000, arrivé à 153 pour 1000. Bien sûr, des chiffres balancés comme ça à la tête, on peut se dire, écoutez, qu'effectivement, il y a un certain progrès. Nous avons eu des exposés sur les urgences pédiatriques à l'hôpital provincial général de Kinshasa il y a quelques jours. Et il a été démontré que les enfants de moins de 5 ans, 80% meurent dans la communauté sans atteindre l'hôpital. C'est important. Ceux qui atteignent le centre de santé, il y a peut-être 15% qui meurent, et puis ceux qui arrivent dans des grands hôpitaux, les centres de référence, 5%. Alors, 80% meurent avant d'aller à l'hôpital. Pourquoi? Un, il y a un problème d'ignorance. Et à ce point de vue, il y a des questions qu'il faut se poser. Est-ce que il y a une campagne suffisamment orchestrée pour que la population sache exactement ce qui est en train de se passer, surtout dans les milieux ruraux. Deux, il y a un problème de communication des transports. Est-ce que ces gens-là, ne parlons pas de Kinshasa, parlons de l'intérieur du pays, les centres de santé et à quel niveau par rapport à là où ils habitent et quand ils sont frappés par une urgence des maladies diarrhéiques chez les enfants, comment font-ils? Trois, il y a le fait qu'on peut avoir le centre de santé à côté de soi, mais on n'a pas l'argent pour aller payer. On n'a pas l'argent pour entrer dans le centre, même dans les hôpitaux d'État.
La pauvreté.
La pauvreté. C'est un troisième élément important. Alors, là où je suis peut-être d'accord avec ce que mon confrère Kamba vient de dire, c'est le fait que il y a des facteurs extra-médicaux importants qui sont en train de jouer là-dedans. Quand vous regardez, par exemple, nos émissions à la télé, à la radio, combien de temps consacre-t-on à la santé pour s'attaquer à l'ignorance? L'infrastructure routière dans les milieux ruraux, comment ça se passe? Il y a des gens qui doivent faire des kilomètres pour avoir le premier centre de santé où ils peuvent être traités. Troisièmement, la pauvreté. Et ça, ce ne sont pas des facteurs qui sont nécessairement liés directement aux problèmes médicaux, ce sont des facteurs qui sont liés à la gouvernance du pays. Alors je voudrais demander à mes confrères que nous intégrions. Et quand bien même le malade arrive à l'hôpital, il y entre. Comment sont équipés les hôpitaux de l'État? Si ce n'est pas des ordonnances que nous allons remettre à ces personnes, quel est le budget dévolu au département de la santé en matière de traitement des affections, en matière de prévention de toutes ces endémies que nous avons connues? Je crois que je demanderai à mes collègues, à mes confrères, de recentrer les débats sur les réalités telles que nous les vivons.
Et de tempérer l'optimisme.
Tout à fait. Tempérer cet optimisme que je trouve un peu béat, à mon humble avis.
Alors, docteur Kabamba Mbwebwe, plusieurs études ont montré que la RDC n'atteindra pas les objectifs du millénaire d'ici 2015. Y a-t-il lieu de craindre, comme vous le dites, que cette situation ne s'empire?
Je suis tout à fait d'accord. Ceux qui sont en train de mettre des réticences par rapport aux objectifs tels que nous les sommes fixés, je suis tout à fait d'accord avec eux. Si aujourd'hui, je me rends compte que le taux, il y a peut-être des études qui vont le dire après, le taux de consultation de ce qu'on peut appeler un peu les traitements indigènes, les tradipraticiens, il y en a qui font du bon travail, mais il y en a qui font du charlatanisme. Mais ces gens-là ont ouvert les portes à tous ces pauvres qui se disent, écoutez, allez à l'hôpital, je vais payer très cher, je reste dans un milieu où je peux peut-être payer moins cher, alors qu'ils sont en train d'hypothéquer leur vie.
Docteur Kabamba, il y a Shambui Freddy Olympia de Kateketa au Katanga qui a son avis, qui dit « C'est parce qu'en RDC, la majorité des naissances est indésirable et due surtout au manque de distractions comme le sport par exemple. »
Oui, ça peut être un facteur. Mais cela ne peut pas justifier que nous puissions avoir une mortalité infantile aussi élevée. Si nous pouvons l'obtenir en dessous de 100 comme partout ailleurs, ça serait déjà une bonne chose. Mais être au-delà, même si on est parti de 200, je reste toujours malheureux. Et quand je vis ce que je vis à Kinshasa, je m'imagine l'hécatombe qui existe à l'intérieur du pays.
Alors docteur, ne faudrait-il pas aussi s'étonner, quand je posais tout à l'heure la question à docteur Jean-Fidèle Ilunga concernant, je le disais malheureusement, le nombre des enfants enterrés, et le Katanga était placé en tête, c'est quand même une province qui est considérée comme la plus grande après Kinshasa, mais c'est quand même étonnant.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous.
Et donc il n'y aurait pas suffisamment d'efforts qui soient faits pour que les choses aillent mieux.
Et oui, je leur ramène la balle parce que je voudrais recentrer les débats avec mes confrères. Vivons les réalités telles que nous les connaissons sur le terrain.
Voilà, nous allons de Kinshasa aller à Uvira et puis nous reviendrons dans ce studio. Notez que la cité d'Uvira est encore et toujours dans le noir depuis 3 semaines déjà. Les pannes survenues sur la centrale hydroélectrique de Bukavu et sur les pylônes au Burundi voisin ont entraîné cette fois-ci des conséquences néfastes dans le domaine de la santé. Selon les autorités de l'hôpital général d'Uvira, une dizaine d'enfants prématurés internés dans la salle néonatale sont décédés en l'espace de 2 semaines suite aux coupures du courant. L'Ouvira, plus d'explications avec Fiston Goma.
C'est l'ambiance vécue presque chaque jour depuis 2 semaines à l'entrée de la salle néonatologie de l'hôpital général d'Ouvira. Cette femme a perdu son bébé prématuré mercredi matin. La mort est survenue quelques minutes après une coupure brusque de l'énergie alors que le nouveau-né se trouvait dans la couveuse. Le médecin directeur de l'hôpital présent déplore le drame, docteur Yves Bagale Bahati.
Depuis que la coupure a commencé, puisque nous recevons chaque jour au moins 1 ou 2 enfants de nouveau-nés prématurés, et nous les perdons presque tous les jours, au moins 1 par jour en néonatologie. Et il y a des malades qui sont sous respirateur s'il n'y a pas d'énergie, et ces malades-là aussi décèdent vite.
Du côté de la Société nationale d'électricité SNEL Ouvira, on explique cette coupure intempestive d'énergie par la panne survenue à la centrale hydroélectrique de Bukavu et sur la ligne à haute tension au Burundi voisin. Le chef de centre à Ouvira a indiqué que ces perturbations ont été annoncées par les médias locaux et que les travaux de réparation sont toujours en cours. D'Ouvira, Fiston Goma Mayaba, la radio Capri.
Merci Fiston Goma, c'est très émouvant, hein, mais notez que ce reportage a été diffusé jeudi dernier sur nos antennes, mais jusqu'au moment où nous parlons, l'électricité n'est toujours pas revenue dans la cité d'Ouvira. Docteur Jean-Fidèle Ilunga, docteur Kabamba Mbouiwe parlait tout à l'heure des facteurs extra-médicaux, ne faut-il pas s'inquiéter pour ce genre de situation?
Merci beaucoup. Pour cette intervention, surtout cet émouvant, ce qui vient d'être diffusé. Mais je voudrais quand même aider nos collègues, surtout ceux qui sont dans les fins fonds du pays, même ceux qui sont dans les villes du pays. Les enfants prématurés, nous les aurons toujours, mais aujourd'hui, c'est pas nécessairement la couveuse qui résout le problème. La couveuse est réservée pour certains cas plus compliqués, mais seulement si c'est la prématurité, nous avons une méthode simple que nous appelons la méthode mère kangourou. Et donc c'est la mère qui doit placer son bébé au niveau de son corps. On fait un contact corps à corps et la chaleur de la mère va sauver beaucoup de prématurés actuellement. Ça, c'est une pratique qui se fait dans le monde. Et nous devons adopter cette pratique pour ne pas trop leurrer les parents que sans couveuse, on ne peut plus élever les bébés prématurés. C'est quand même dommage, mais c'est quand même une information que nous partageons déjà. Je profite de cette occasion pour aider avec cette information pour ceux qui nous écoutent. Les facteurs multisectoriels, je pense que c'est évident. La mortalité des enfants n'est pas liée qu'aux facteurs santé. Je pense que là, on ne peut pas toujours continuer à se répéter. Il y a plusieurs facteurs et toutes ces données, nous les avons. Donc, maintenant, c'est de voir stratégiquement comment on peut contourner ou comment on peut progressivement évoluer dans le développement pour que les autres facteurs, l'agriculture, l'infrastructure routière, la communication et tout, tout consort puisse concourir à ce que nous puissions donner la vie à nos enfants et que nos enfants puissent fêter leur 5e anniversaire. Quand vous entendez le nombre des enfants qui n'arrivent pas à fêter leur 5e anniversaire, qui meurent, c'est désolant. Ce sont des enfants congolais. Et il n'y a pas que les facteurs médicaux, il y a les facteurs multisectoriels et dans lesquels il faut que tout le monde intervienne.
Alors, docteur Jean-Fidèle Ilunga, vous avez suivi docteur Kabamba Mbouéboué qui soutenait qu'il fallait vous ramener à la réalité et tempérer l'optimisme dont vous avez fait montre tout à l'heure.
Oui, vous savez, nous sommes des experts et nous parlons des chiffres et nous voyons les allures. Donc, quand nous prenons un chiffre ponctuel, c'est ce que j'ai voulu démontrer. C'est comme si on ne fait rien. Mais nous sommes un pays et on fait des efforts et les efforts portent quelques fruits. Il faut quand même d'abord regarder ces quelques fruits et puis maintenant regarder où est-ce que nous sommes en train d'aller. Je pense que c'est ça ce que nous sommes en train également de démontrer. Sans être trop optimiste, l'objectif du développement du millénaire doit nous ramener à 66 décès pour 1000 naissances vivantes et nous sommes en 2010, nous étions à 156 pour 1000 naissances vivantes. Vous voyez que nous n'avons que 2 ans ou 3 ans pour arriver à ça, ce qui ne semble pas être très évident. Et donc ça, on ne ferme pas les yeux sur ça.
Docteur Hippolyte Kalambay, juste un mot par rapport au reportage que vous avez suivi tout à l'heure.
C'est embêtant, très embêtant pour nous tous de suivre des choses comme ça. Mais ceci, ça nous ramène au point sur lequel nous sommes d'accord avec Dr Kabamba, qui montre que le décès, en fait, des enfants de cette tranche d'âge-là, c'est plutôt un problème de développement, parce que là, c'est plutôt le courant qui a manqué. Et donc, je crois qu'il faut que nous ayons une vue globale de la santé de l'enfant, intégrée dans le cadre d'un développement global du pays, pour qu'on puisse bien aborder cette question.
Alors, Dr Kabamba a également souligné l'ignorance parmi les causes, surtout en milieu rural, et il semblait démontrer qu'il y aurait un déficit de sensibilisation. Comment vous y répondez?
Le pays est vaste. Il est vaste. Nous avons des campagnes de communication qui se font. C'est vrai qu'on n'a pas encore touché tout le monde, mais il y a un travail de fond qui se fait à ces niveaux-là. Il a souligné également que il y a une bonne partie d'enfants qui meurent dans la communauté. Nous sommes bien au courant de tout ça. C'est pour cela que nous avons un certain nombre d'interventions à impact visible et rapide qui peuvent être faites dans la communauté par ceux qui entourent l'enfant. Ça veut dire le papa ou la maman qui peuvent déjà faire un certain nombre de choses pour essayer de sauver la vie de leurs enfants. Par exemple, si un enfant fait la diarrhée, on peut lui donner le sérum de l'hydratation orale. On n'a pas besoin forcément d'aller d'abord à l'hôpital pour ça. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire.
Et un milieu rural où, quelquefois, on ne retrouve pas ce produit?
Il y a moyen de pouvoir le fabriquer avec du sel local. Il n'y a pas que ça. Il y a les problèmes d'hygiène. Savoir donner à l'enfant de l'eau qui a été bouillie, par exemple, si l'eau n'est pas sortie du robinet.
Pardon, docteur, je voudrais qu'on revienne au problème de maladie diarrhéique, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont en train de nous suivre en province, en milieu rural, et qui souhaiteraient avoir ce genre de recette. Vous parlez du sel, qu'est-ce qu'il faudrait faire après le sel?
Alors, il suffit de prendre une bouteille d'eau, équivalente à ce que nous avons comme bouteille de scol ou de plumus, avec 3 pincées de sel, vous mettez dedans, vous mélangez, et ça peut sauver la vie à l'enfant. En attendant que l'on ait des produits qui sont fabriqués par les industries pharmaceutiques.
Donc, à peu près 75 centilitres. Ouais. Voilà. Il y a également un problème. Vous parliez tout à l'heure des problèmes d'hygiène. Il y a Papi Bouda de Wolo qui nous écrit du Maniema qui dit que la population soit aussi impliquée dans la recherche des solutions. C'est là en respectant les mesures qui sont prises dans le sens d'éradiquer ces fléaux. Docteur, parlez un peu de l'hygiène en mettant l'accent parce que nous avons dit que cette émission est également pédagogique et c'est pour la sensibilisation aussi.
Ok. L'hygiène intervient à plusieurs niveaux. Je voudrais parler de l'hygiène, de l'eau et de l'assainissement, parce que c'est des choses qui marchent ensemble. Le simple fait, tout simplement, de rendre propre les milieux dans lesquels on vit, son environnement immédiat, peut aider beaucoup. Parce que ceci peut contribuer à réduire, par exemple, le nombre de moustiques qui sont dans l'environnement et qui piquent les enfants. L'hygiène, tout simplement. Parce que là où il y a la propreté, généralement, il n'y a pas de moustiques.
Et il y a des coins où, docteur, les moustiquaires qui sont distribués gratuitement servent plutôt à la pêche qu'à la maison où les enfants devraient être couverts.
Vous avez raison, ce sont des dérapages qui sont liés à tout programme de santé. Vous ne pouvez pas penser que si vous mettez en place un programme de santé, il va être suivi à 100% par tout le monde. Vous avez parlé il n'y a pas longtemps des cas de résistance à la vaccination. Maintenant, notre rôle, et ça nous le faisons, c'est de pouvoir éduquer la population pour lui montrer le bien fondé de l'intervention que nous mettons à sa disposition pour que ceci soit utilisé et qu'on puisse arriver à réduire la mortalité chez les enfants.
Et donc pour tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, surtout en milieu rural, il faut absolument utiliser la moustiquaire, docteur.
Chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, c'est conseillé. Et d'autant plus que c'est gratuit et l'effet ou l'impact sur la réduction de la mortalité a été prouvé scientifiquement.
Docteur Kabamba Mbouyboué, également un commentaire sur le reportage d'Ouvira qu'on venait de suivre.
Bon, écoutez, c'est un reportage qui est triste. Hein. On ne peut pas être content de voir comme ça les enfants qui meurent tous les jours et que ça devient un phénomène ordinaire. Je voudrais rappeler ce que le confrère Ilonga a dit tout à l'heure, hein, la méthode kangourou aujourd'hui. Elle est appliquée, et c'est d'ailleurs une méthode qui était inventée par les médecins du tiers-monde. Hein. Ils sont partis des deux pédiatres colombiens. Aujourd'hui même en Europe, où ils ont des bonnes couveuses, ils ont peut-être moins de déboires de courant qu'ici, ils appliquent ça. Donc je crois que ça serait bon d'insister pour que les confrères qui sont à l'intérieur, qu'ils puissent utiliser la chaleur de la maman, la chaleur du papa, pour éviter les problèmes qu'on a avec le courant. Mais alors, comme l'a dit le confrère Kambaï tout à l'heure, les facteurs extra, les facteurs multiples qui viennent, en dehors même de la santé, en voilà un, le courant. Mais on est en train de parler du courant. J'aurais voulu qu'on parle de l'eau aussi. Quelle est la qualité d'eau qu'on nous donne? Là, je ne veux pas prendre les milieux ruraux, parce que là, ils ont des problèmes. Prenons même à Kinshasa ici. La desserte en eau potable est devenue quelque chose de tout à fait hypothétique dans la plupart des quartiers. Et nous vivons, il y a même des périodes où on a des épidémies de fièvre typhoïde, hein, dans la grande ville de Kinshasa. Et là, encore une fois, c'est un problème qui n'est pas lié au médical immédiatement, c'est un problème environnemental. Le moustique, tout ça, l'environnement et tout. Et il y a là-dedans, je reviens, je pense que, il nous faut un effort pour la campagne de sensibilisation. Ça me fait toujours de la peine de voir de la musique du matin au soir, pour ne prendre que Kinshasa, sur la télé et des émissions éducatives comme celle-ci, on n'en voit presque pas. Il y a une part importante de l'ignorance, il y a une part de la responsabilité du gouvernement, et il y a une part aussi de responsabilité au niveau de la communauté.
Voilà, 85 pédiatres pour une population évaluée à près de 70 millions d'habitants, chiffre livré par le président de la Société des pédiatries du Congo, et ils sont repartis de la manière suivante, 50 à Kinshasa, 20 au Katanga, alors qu'au Bandundu et à l'Équateur, il n'y a aucun pédiatre, selon la même source. À Kinshasa, une centaine d'enfants sont consultés chaque jour dans des pédiatries, et ils posent très souvent un problème de prise en charge correcte des enfants. Notre reporter Nadine Foulansimba a fait le tour dans certaines grandes pédiatries de Kinshasa. Voici son reportage.
Nous nous sommes intéressés à la pédiatrie d'Ngaliema et Kalembelembe. Selon Dr Kamanga, pédiatre à Ngaliema et président de la Société des pédiatres du Congo, la survie de l'enfant congolais constitue un vrai problème en RDC. La pédiatrie d'Ngaliema, par exemple, reçoit chaque jour au moins 80 à 100 cas, alors qu'à Kalembelembe, ces chiffres avoisinent la centaine. Dans les deux hôpitaux, les cas des maladies les plus soignées sont le paludisme, les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques et autres maladies peuvent, notamment la rougeole, la La Société des pédiatres du Congo a fait une batterie de recommandations au ministère de la Santé. Il y a notamment le nombre disproportionné des pédiatres en RDC. En effet, pour 70 millions d'habitants, il n'y a que 85 pédiatres et il y a certaines provinces qui n'en ont pas.
La qualité des soins n'est pas bonne. Déjà, à partir du diagnostic et de la prise en charge au niveau des enfants, elle n'est pas adéquate. C'est pour ça que notre premier axe, c'est la formation continue.
D'après un personnel médical de Kalembelembe, dans le lot de recommandations, il faut aussi ajouter la sensibilisation des parents, surtout la maman. Il faut également fournir aux institutions hospitalières les moyens adéquats pour une prise en charge préventive et curative. Il y a aussi le fait que les enfants sont amenés souvent en retard et en mauvais état dans de grandes formations hospitalières.
Docteur Kabamba Mbouéboué, je rappelle que vous êtes médecin à l'hôpital général de Kinshasa, président du parti politique Front Patriotique et modérateur de la plateforme de l'opposition dénommée G14, 85 pédiatres pour une population évaluée. Lui, à près de 70 millions d'habitants, c'est effrayant.
Oui, c'est insignifiant, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense qu'à défaut du nombre voulu des pédiatres, la plupart des médecins, la formation que nous avons, nous permet, en tout cas au minimum, de parer au plus pressé. Je ne crois pas, hein, ça c'est un avis tout à fait personnel, ça n'engage que moi, je ne pense pas que cela dépend essentiellement du nombre de pédiatres. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs en amont, avant même d'atteindre les pédiatres, qui font que, bon, il y a même des malades qui ne voient même pas ce pédiatre-là, étant donné qu'il y a le problème de transport, étant donné qu'il y a le problème d'ignorance, étant donné qu'il y a des problèmes, même des moyens. Si je prends l'hôpital Ngaliema aujourd'hui, je vois ce qu'il y a à l'hôpital Ngaliema, et je recule il y a 30 ans, je regarde ce qu'il y avait dans cet hôpital Ngaliema aujourd'hui, mais j'ai des larmes aux yeux. C'est là que je repose la question, parce que Ngaliema, comme l'ex-Mamayemo, comme Kinoa, c'était des hôpitaux de l'État. Quelle est la part du budget donnée au département de la santé pour subvenir à tous ces gros problèmes? Ça, c'est le fond du problème. Vous entrez là-bas, en pédiatrie, est-ce que les enfants qui viennent, ils peuvent trouver les médicaments directement, ou bien les médecins sont obligés de faire des prescriptions? C'est ça la question de fond. Nous devons avoir des hôpitaux qui répondent aux normes. Et si ce sont les hôpitaux de l'État, c'est le gouvernement qui doit leur donner des subsides conséquents en fonction des problèmes qu'ils ont. Le problème des budgets donnés à la santé publique, c'est un problème crucial.
Et demain, c'est déjà en principe la rentrée parlementaire. Docteur Kabamba, quel souhait vous aimeriez, vous pouvez émettre par rapport à ce budget?
Ça a toujours été le même souhait. On leur a dit... Vous savez, il y a un adage qui dit, dites-moi combien vous donnez à la santé dans votre pays et je dirai quel type de pays vous êtes. Si vous ne donnez rien à la santé, vous donnez tout à la sécurité, à l'armée, vous attendez à quel type de santé? 18 millions, par exemple, de moustiquaires imprégnés. Quel est l'impact réel au niveau de la population? Et là, ce n'est pas la faute des confrères qui sont en train de travailler au département de la santé. Il y a en amont un problème. Est-ce qu'il y a une volonté politique de résoudre le problème de santé en RDC?
Docteur Jean-Fidèle Ilunga, vous êtes coordonnateur national des stratégies de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Je signale en même temps qu'il nous reste moins de 7 minutes pour terminer l'émission. Docteur, en guise de solution, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement dans l'immédiat, docteur Jean-Fidèle Ilunga?
Merci beaucoup. Ce qu'il faut faire dans l'immédiat, c'est agir dans la communauté où nous avons 80% des enfants qui meurent. Et agir dans cette communauté, c'est d'abord faire la promotion de bonnes pratiques que les ménages peuvent adopter. Par exemple, l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Le fait de faire dormir l'enfant sous moustiquaire imprégné, le fait de faire vacciner chaque enfant avant son premier anniversaire, le fait d'adopter la pratique de lavage de mains, et c'est des bonnes pratiques. Et puis, il y a le recours aux soins. Donc, éduquer la population c'est que dès qu'un enfant présente un certain nombre de signes, cet enfant doit nécessairement se retrouver au niveau d'une structure de soins pour sa prise en charge. Je crois que avec ça, nous pouvons déjà essayer de protéger les enfants dans la communauté. La deuxième chose, c'est de rendre disponible le médicament au niveau des structures de soins.
Merci.
Vous savez, la RDC, c'est un des pays qui a un très bon système de soins de santé primaire. Au moins, une structure type centre de santé se retrouve quelque part, même si ça parfois plus de 5 kilomètres de la population. Donc,
merci.
Si les médicaments sont disponibles dans les structures, et si la population est bien sensibilisée, nous pouvons agir.
Merci, Dr Jean-Fidèle Ilunga. Il nous reste moins de 5 minutes. Dr Hippolyte Kalambay, vous êtes directeur chargé des études de planification au ministère de la Santé publique. Vous avez suivi les solutions proposées par Dr Jean-Fidèle Ilunga en ce qui concerne la communauté. Mais il y a également ce problème de budget sur lequel est revenu Dr Kabamba Mbouboué.
Oui. Mais avant ça, je prends juste quelques secondes pour essayer de,
très rapidement,
de corriger ou de compléter ce que Dr Kabamba a dit. Vous avez posé une question de savoir si la situation n'est-elle pas en train de s'empirer en termes d'objectifs de développement.
Puisque la RDC n'atteindra pas ses objectifs d'ici 2015.
Oui, je crois que c'est tout à fait. C'est deux choses différentes. Il est presque sûr qu'on ne va pas les atteindre. Mais ce qui est aussi sûr, c'est que nous sommes en train d'évoluer vers l'atteinte. On n'est pas en train d'évoluer vers l'aggravation de la situation. On les atteindra, mais pas en 2015. Je crois que c'est une nuance de mon point de vue qui est importante.
Et quels sont les éléments qui vous poussent à être si optimiste?
C'est la tendance actuelle de la mortalité chez la femme et chez les enfants. Depuis 90, elle est en train de baisser.
Alors, je parlais du budget. Au niveau des décideurs, ne faudrait-il pas manifester suffisamment de volonté politique en donnant suffisamment de moyens pour me répéter à la santé?
Je pense que c'est important qu'il y ait suffisamment d'argent pour la santé, d'une part, mais c'est aussi important que nous puissions déjà bien utiliser ce que nous avons.
Donc, il y aurait des problèmes également de mauvaise gestion?
Je crois, à tous les niveaux, hein, dans nos structures de santé, parce qu'il y a quand même des recettes que la formation sanitaire génère. Ça devrait aider à résoudre un certain nombre de problèmes. Au niveau du gouvernement aussi, je pense qu'on devrait continuer à augmenter le budget de l'État pour atteindre les objectifs tels que le chef de l'État l'avait lui-même. C'était convenu avec ses compères à Abuja, 15% du budget global qui est consacré à la santé. Ça, c'est important. Mais je sais aussi qu'en dehors du fait que le budget est faible, il y a quand même des efforts qui se font. Par exemple, pour le moment, en dehors du budget de la santé, il y a ce qu'on appelle des fonds spéciaux. Je pense que vous avez suivi ça à la radio et à la télévision. Et ça fait 20 ou 21 milliards de francs congolais, 20 millions de dollars, qui sont accordés à la santé pour faire un certain nombre de choses et qui vont permettre d'équiper 66 hôpitaux et 330 centres de santé. C'est déjà là une forêt.
Docteur Kabamba Mbouboué, en guise de conclusion, est-ce que vous pouvez donner un message à tous ces auditeurs, ces internautes qui sont en train de vous suivre en ce moment?
Ce que moi je peux dire, c'est que je pense que notre pays a besoin de regarder la santé comme étant un secteur important. La vie, c'est le capital le plus précieux de tout homme. Donc, il faut que la part dévolue à la santé puisse être conséquente. Ça, c'est un. Deux, il faut mettre des responsables à tous les niveaux qui ne répondent pas aux critères de clientélisme politique.
L'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut pas que tel soit là-bas parce qu'il est protégé par le ministre. Tel soit là parce qu'il est protégé par quelqu'un qui est à la présidence. Mettez des gens responsables parce que la corruption et la mégestion est due au fait que on a mis certaines personnalités qui sont couvertes, ils ont des parapluies politiques. Et troisièmement, je suis d'accord avec tous mes confrères qu'il faut une campagne de sensibilisation. Ce que nous faisons aujourd'hui est encore insuffisant. Il faut continuer pour que l'hygiène, pour que les facteurs environnementaux qui peuvent être influencés à notre niveau le soient effectivement.
Alors, adressez-vous maintenant à la population, juste en quelques mots, en guise de sensibilisation.
Non, la population, nous lui demandons l'hygiène, de laver les mains, nous lui demandons de donner de bonnes habitudes, quand on quitte les latrines, de savoir prendre des précautions, de ne pas manger n'importe quoi sur la rue, qu'on vend où il y a de la poussière et des mouches et tout ça.
Merci.
Mais il nous faut beaucoup de temps pour parler.
Docteur Jean Fidèle Ilunga, juste un mot pour conclure. On a terminé.
Merci beaucoup. Nous voudrions que l'un enfant congolais qui naît puisse vivre et aller au-delà de 5 ans pour que sa chance de devenir utile à notre société soit.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Souffrez, docteur Jean-Fidèle Lunga, que je vous arrête par là. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bon suite et programme sur la radio de la paix.